Vous écoutez l'émission À nos mémoires, le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous restons à Réalville, ce village que je connais particulièrement bien, et nous y restons pour parler d'un personnage qui n'était pas natif de Réalville, qui n'était pas réalvillois, mais qui a laissé beaucoup, beaucoup de traces dans ce village. D'ailleurs, une rue porte son nom. Alors, il s'agit d'un peintre. Nous avions croisé à Moricou Marcel Lenoir. Aujourd'hui, nous allons croiser Jean-Gabriel Goulina. Il est né à Tours le 9 février 1883. Il est décédé à Paris le 20 juillet 1972. Mais bien qu'il soit décédé à Paris, il a tenu à être enterré au cimetière de Réalville, où il y avait sa femme, puisque c'est par son épouse qu'il a eu ce lien avec notre village de Réalville. Alors, Jean-Gabriel Goulina, en fait, c'est un fils d'instituteur de Tours, Jean et Zoé Goulina. Il avait un frère Arthur, une sœur Marthe, qui étaient ses aînés. À 7 ans, son père meurt d'une rupture d'anévrisme. Donc, en 1890, il est orphelin. En vérité, ce père-là était originaire lui aussi du sud-ouest, du village de Clérac. À 15 ans, Jean-Gabriel Goulina va se faire inscrire à Tours auprès d'un professeur de dessin, parce que dès cet âge-là, il avait cette passion vraiment accrochée au cœur, qui était la passion de la peinture. Une passion qui, pour sa mère, était un peu inquiétante, parce qu'elle ne connaissait pas beaucoup de peintres qui puissent vivre de leur vie. Les parents, c'est très rare qu'ils aiment voir la perspective d'un enfant devenir artiste. Bien, il a maintenu son désir. Il a quand même été écouté. Et pendant que son frère devenait fonctionnaire à la mairie de Tours, pendant que sa sœur Marthe devenait, comme sa mère, institutrice, eh bien, lui, il va partir pour Paris et il va continuer à se passionner pour la peinture. Il va suivre l'école des Beaux-Arts. Il va croiser un certain nombre d'artistes. Il va les écouter. Le tournant un petit peu de sa vie, c'est quand, dans une fête organisée par des amis de ses parents qui étaient grands propriétaires originaires de Tonnens, il va croiser Mathilde, une dame qui était de Réalville et qui était veuve, et surtout sa fille Suzanne, qui va devenir son épouse. Alors, c'est là qu'on retrouve donc Réalville. Ça se passe en 1905. Il est invité à Réalville pendant les vacances d'été pour assister à une cérémonie qui était en perdition, qui s'appelait la bénédiction des bestiaux. Sa future belle-mère, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore ni fiancés ni quoi que ce soit, sa future belle-mère pensait que cette cérémonie pourrait peut-être donner lieu, de la part de Jean-Gabriel Goulina, pourrait donner lieu à un beau tableau. Mais le jeune homme avait autre chose en tête. De toute façon, la coutume étant en perdition, il n'y a pas eu beaucoup d'éléments pouvant donner lieu à un tableau. Et toute son attention pourra se porter d'autant plus sur Suzanne. Suzanne plutôt et Jean-Gabriel vont finalement tomber amoureux l'un de l'autre. Une belle histoire. Ils vont se marier. Et Jean-Gabriel va continuer à pouvoir être peintre. Les recettes tombent pas beaucoup dans la poche de jeunes couples, mais pas de problème, il continue quand même. Alors, dans des situations comme ça, quand on est quelqu'un du peuple et qu'on veut devenir artiste, il faut quand même avoir ce qu'on appelle un plan B. Et le plan B, pour Jean-Brieuc Goulina, c'est la restauration des tableaux. C'est là qu'il va exceller. Et en vérité, aujourd'hui, je vais surtout vous parler du restaurateur. Alors, bien sûr, en 2012, restaurateur de tableaux, ça peut être quelque chose d'ordinaire. Mais en fait, autour de 1910, 1914, on dira ensuite un petit mot de la guerre 14-18, autour de 1910-1914, restaurer un tableau apparaissait un petit peu comme quelque chose un petit peu d'anachronique. Les tableaux, fallait pas les toucher. S'il y avait dessus la patine du temps, qui leur donnait un air parfois un petit peu plus sombre qu'à l'origine, ah ben c'était normal. Restaurer un tableau, c'était presque trahir la valeur de la peinture. Jean-Gabriel Goulina, avait une autre optique. Il expliquait tout simplement que dans la maison, sur la table, sur les meubles, sur le sol, il y a de la poussière qui s'accumule. Et qu'est-ce qu'on fait périodiquement? Il vaut mieux d'ailleurs le faire, comme d'ailleurs sur la peau, partout. Il faut se nettoyer, il faut laver, il faut redonner du lustre, comme on dit. Et Jean-Gabriel, pour lui, une peinture, c'est exactement la même chose. Il fallait s'en occuper très fortement. C'est tout ça qui le conduit à se passionner donc pour, si je puis dire, le dessous. Pas seulement le dessous de la poussière qui s'accumule sur les peintures, mais même le dessous des peintures. Et on connaît maintenant les fameux travaux à partir des rayons X pour essayer de deviner dessous. Eh bien, il est un pionnier. Il est un pionnier à la matière. Étrangement, pendant la guerre 14-18, il n'était pas apte à faire la guerre. Il a été réformé. Je suppose que c'était pour des raisons de vue. C'est sa fille qui a écrit un livre qui s'appelle Jean-Gabriel Goulina, sa vie, sa carrière. Elle a fait cette biographie, Anne-Marie Goulina, mais dans cette biographie, elle n'explique pas les raisons du fait qu'il ait été réformé à plusieurs reprises par les militaires. Donc, il est du côté des docteurs, parce qu'il veut quand même participer, et c'est là que les rayons X font leur apparition, et il est tombé sur, on va dire, un chirurgien qui était attentif à ses desiderata, et donc, quand ils avaient 5 minutes, ils essayaient de voir si on pourrait pas se servir de cette technique pour deviner ce qu'il y avait sous les peintures. Tout ceci le conduit à la fin de la guerre, en 1922, à écrire un livre qui va être un livre fondamental sur la technique des peintres. Donc, d'un côté, il est peintre et il le sera tout le temps, un peintre qui s'inspire beaucoup de Corot, mais d'un autre côté, il est aussi observateur des peintres. Et c'est ce côté d'observateur des peintres qui va lui donner une notoriété internationale. On ne peut pas dire le contraire. Il a été à la une des journaux à plusieurs reprises. D'abord, à propos de ce fameux tableau mythique qui s'appelle la Joconde. Il l'a une première fois, après qu'il ait été très très légèrement détérioré, il l'a restauré la Joconde. Il en a restauré bien d'autres ensuite, et à propos de cette Joconde, on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on reviendra à ce moment-là à Montauban. Mais cet aspect de technicien de la peinture le mettra à la une des journaux, comme je viens de dire, juste avant la guerre de 39-45. Le 11 juin 1939, un jeune aventurier qui s'appelait Serge Bukoslavski va s'emparer d'une peinture de Watteau titrée « L'indifférent ». Et ce personnage un petit peu loufoque va, 2 mois plus tard, le 14 août, se présenter au palais de justice, accompagné de son avocat, pour rapporter cette fameuse peinture de Watteau. Je pense que les auditeurs connaissent un petit peu ce peintre qui était une des grandes références, et qui est toujours une des grandes références de la peinture. Donc, il rapporte cette peinture. Il ne l'avait volée que pour la restaurer lui-même. Alors, une restauration était-elle satisfaisante ou pas quand il rapporte cette peinture? La première des choses, c'est que, en même temps qu'il avait volé cette peinture, il voulait écrire un livre sur comment j'ai volé l'indifférent. Catastrophe, parce que la peinture avait été fortement, non pas restaurée, mais détériorée. Et on a, à ce moment-là, fait appel tout de suite à Jean-Gabriel Goulina pour voir si on ne pouvait pas réparer cet outrage fait à une œuvre d'art. Jean-Gabriel Goulina, d'abord, il était en vacances à ce moment-là à Alès. Il a été appelé d'urgence à Paris pendant l'été. Dans un premier temps, il reconnaîtra que la peinture est bien l'original. Dans un second temps, il déterminera comment il a pu être détérioré, par quel vernis. Et dans un troisième temps, il réussira, avec d'autres, à redonner son éclat à cette peinture de Watteau. Et tous les journaux, que ce soit l'Humanité, que ce soit Le Matin, Le Temps, tous ont rendu compte de cet événement un petit peu rocambolesque. Et d'autant plus rocambolesque que, ils étaient deux, hein, donc il y avait Serge Boukolowski, et il y en avait un autre qui s'appelait Despré, qui était un comédien, et c'était lui qui était en charge d'écrire le récit de cette aventure. Et ce comédien n'était autre qu'un joueur, il avait joué dans une pièce de qui ? Eh bien, dans une pièce d'Anne-Marie Goulina. Les choses qui se croisent comme ça par pure coïncidence. Bien sûr, ce point, juste avant 1939, va nous conduire, après une petite pause musicale, au second point que je vais évoquer sur ce héros, un petit peu, puisqu'il va, en 39-45, intervenir pour sauver les peintures du Louvre. Et c'est là que nous reviendrons à Montauban, puisqu'il bénéficiera de ses liens avec Réalville pour utiliser les services du musée Ingres afin de sauver une seconde fois la Joconde. Alors, après cette petite pause musicale, merci.
La peinture en huile, c'est bien difficile en huile, mais c'est bien plus beau. Dali, daladi, adadi, que la peinture à l'eau. Ah, à l'eau, ah. Rapetit, péta, petit péto. Rapetit, péta, petit péto. Carabine, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. C'est un jeu face à Hawaïl. On dit de verre en Hawaïl. Et puis on termine. Dali, daladi, adadi. Par plaisanterie fine. À l'eau de sels. Rapetit, péta, petit péto. Rapetit, péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Elle est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Les automobiles dans les rues des Fawaïles. C'est moins rigolo. Dali, daladi, adadi, que les pédalos à l'eau. Allo, ah, rapetit, péta, petit péto. Rapetit, péta, petit péto. Carabide, carabo, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une défrisable. Est admirable, on en mangerait un tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu. Faut pas se faire de Hawaïl. C'est bien inut Hawaïl. Et ça rend morose. Dali, daladi, adadi. Vaut mieux se faire autre chose. Aloha. Rap petit péta petit péto. Carabine, carabon, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Sauf peut-être ma cousine Berthe qui s'est fait faire une indéfrisable et admirable. On en mangerait un tout petit peu. Un tout petit peu. En l'envoie-le.
Vous écoutez l'émission À nos mémoires. Le portrait de Jean d'Issy, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio. Donc, nous revoici à Réalville, pendant l'occupation, pendant la guerre 39-45. Il était craint que Paris soit bombardé. Toutes les autorités donc avaient essayé de mettre au point un plan pour sauver ce qui pouvait être sauvé du musée du Louvre. Alors il y a eu plusieurs hypothèses pour envoyer les peintures vers la Sarthe. Et puis on a dit non, il valait mieux les envoyer plus vers le sud. Et finalement, je ne vais pas raconter toutes les péripéties, mais la région du Tarn-et-Garonne a été un endroit stratégique dans le repli de ces peintures, sans que bien sûr on explique à la population de quoi il s'agissait. Les gens ont vu arriver des camions avec des objets qui étaient protégés, et parmi ces objets, il y avait aussi encore une fois la Joconde. C'était Jean-Gabriel Goulina qui était à l'origine de cette opération, qui a donc été très très marquante, en particulier dans le village, puisque ça a continué d'accroître sa notoriété dans le village. C'est pour ça un petit peu qu'il a son nom de rue, mais il a aussi laissé dans le village beaucoup de peintures. Dernièrement, on me disait que quelqu'un avait son bureau qui avait été gardé. Voilà, c'est la mémoire du personnage est là, et elle tient surtout à cet épisode. Il habitait sur la route nationale 20, à l'emplacement de l'actuelle boulangerie Cournille. Bon, le restaurateur se souvient que sur la fin de sa vie, parce que sa femme est morte avant lui, il venait manger chez sa russe. Voilà un petit peu la vie et le lien entre Réalville et Goulina. Des personnes ont acheté quelques-unes de ses œuvres. À la mairie de Réalville, on trouve des peintures qui sont de Goulina, et j'en profite pour signaler que cet été, à la maison Peyrol à Bruniquel, il y aura une exposition au sujet de Goulina, avec beaucoup de peintures qui ont été prêtées par diverses autorités. Et donc, l'été 2012, en Tarn-et-Garonne, permettra de retrouver quelques paysages de ce peintre qui n'hésitait pas à être un peintre à la manière de Corot. Il savait que ce style n'était plus le style du XXe siècle, à l'époque des cubistes, à l'époque ensuite de la peinture abstraite. Ben lui, il avait son caractère, et il peignait comme il entendait peindre, que ce soit des paysages de Provence, d'Italie ou du Sud-Ouest. C'était sa façon d'être artiste à partir de ce qu'il ressentait et à partir de ce qu'il souhaitait défendre comme idée de la peinture. Jean-Gabriel Goulina, c'est donc cette complexité du personnage qui a un lien avec notre département. Quand il écrivait en 1922 son bouquin sur les techniques de la peinture, à la fin, il y a un chapitre qui s'appelle « Les tendances actuelles de la peinture ». Je vais juste vous lire un petit paragraphe qui va permettre de comprendre comment lui se situait dans cette époque du XXe siècle où la peinture a un petit peu explosé de tous côtés. Il disait donc « Si nous connaissons tous les anciennes polémiques entre les partisans d'Ingres et de Delacroix, la lutte des romantiques et plus tard celle des impressionnistes contre les ennemis de toute tentative nouvelle, nous ne nous souvenons pas assez des jugements déconcertants que les artistes ont entendus depuis que la critique existe. Il y en a qui disaient « François Boucher n'a pas de goût ». Ça, c'était Diderot. « Je pense, disait Stendhal, que Monsieur de Saint-Èvre occupera dans l'opinion des amateurs une des premières places après Schnertz. Je lui vois comme concurrent Monsieur Cigalon, Léopold Robert, Delacroix, Delaroche. On sait enfin quelles invectives Théophile Gautier couvrait Puvis de Chavannes. Je ne crois pas que l'on pense aujourd'hui que Boucher n'avait pas de goût, ou etc. C'est-à-dire que montre bien qu'il y a chez les contemporains qui jugent la peinture, il y a forcément des erreurs d'appréciation, puisque c'est ensuite l'histoire qui tranche. Et de ce point de vue, il était très attentif au cubiste, même s'il n'a jamais adopté ce mode de peinture. Il n'a pas crié, lui, contre les cubistes qui, par rapport à sa vision des paysages, auraient été des mauvais peintres. Non, il pensait qu'au contraire, c'était un autre regard qui était offert aux amateurs de peinture. Les choses ne s'opposent pas. Ce qui s'opposait dans son idée, c'est le rapport entre les bons et les mauvais peintres. Il y avait des bons cubistes, comme il y en avait des mauvais, en particulier les mauvais. Ce sont ceux qui, sans âme, se contentaient de suivre la mode, de faire comme il fallait qu'on fasse. Voilà. Et lui, il discernait, en tant que critique, il discernait tout à fait ces différents points de vue. Il écrit « Des peintres comme Delacroix, Corot, Rousseau, Manet, Puvis de Chavannes furent longtemps malmenés, et avec eux combien d'artistes remarquables. Lorsqu'un homme de la qualité de M. Ingres tenait le gouvernail, on pouvait critiquer sa partialité, du moins s'inclinait-on devant sa valeur. Mais un Cabanel et d'autres encore qui n'avaient pas le talent d'Ingres eurent pendant de longues années une autorité analogue. » Voilà, la différence entre ceux qui avaient une autorité qui était une autorité, on peut dire une autorité naturelle, réelle, représentant une valeur, et les autres qui avaient une autorité un petit peu factice. Voilà, merci. À la prochaine fois, ça sera pour parler de Jean Malrieux. Vous écoutez l'émission « À nos mémoires ». Le portrait de Jean d'ici, que vous pouvez écouter tous les jeudis à 12h35, avec une rediffusion le dimanche à 12h. L'émission vous est présentée par Jean-Paul Damagio.